Bonjour à tous. Vous êtes là pour rencontrer Alpha Cori, dont le parcours est un défi catégorique, comme dirait le texte du site internet de la festival, formé à la Sorbonne pour devenir un excellent prof de français. Elle livre d'abord un magnifique hommage à l'enfance et à la magie avec le Pierre Royal du Brune des Eaux. Puis elle assombrit sa plume pour entraîner les adultes dans l'arcogénèse. Elle revient aujourd'hui avec American Fay, écrit en collaboration avec Xavier Dolot et Christian Truquier. Après, en fait, deux romans pour adolescents qui ont été remarqués et remarquables. L'horloge du temps perdu et Hanté. Et la première question que je vais te poser, c'est quels sont tes classiques?
C'est une sale question pour une prof de français, hein, quand même, déjà, dans la terminologie. Mes classiques... J'aime pas parler en termes de classique parce que j'ai toujours pensé que la littérature c'était pas une question de CV et de liste de livres, hein, mais donc j'aime bien parler en termes de parcours.
C'est pour ça que je parle de tes classiques.
Voilà.
Ce n'est pas forcément les classiques littéraires de l'éducation nationale, c'est aussi les textes qui t'ont inspiré, les textes qui constituent ton imaginaire.
En fait, je vais dévier un peu la question, comme d'habitude. La première rencontre avec la littérature, c'est évidemment les histoires qu'on m'a racontées et le lien affectif. Et je crois que c'est ce qui a déterminé mes classiques. Et puis, le côté bon élève aussi que j'ai, qui a marché. Il y a eu Alice au Pays des Merveilles, déjà, évidemment, de Lewis Carroll, parce que c'est un livre que j'ai toujours trouvé... dangereux et essentiel, et c'est le livre qui m'a permis de comprendre que j'allais mourir aussi à cause d'Humpty Dumpty. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans de l'autre côté du miroir, Humpty Dumpty demande à Alice quel âge elle a. Elle dit 7 ans et demi. Tu aurais dû t'arrêter à 7 ans. J'avais 7 ans et demi, j'ai cru que j'allais mourir. C'était fini. Et puis parce que c'est un livre dont j'ai compris adulte que je ne pourrais plus jamais le relire parce que ça y est, c'était fermé. Donc c'est vraiment ça. Et puis après, des classiques, j'en ai plein. Je suis fan absolue de Victor Hugo et de Maupassant, pour parler vraiment du parcours traditionnel de l'étudiant en lettres françaises, donc tout le 19e, évidemment. Et en imaginaire, si je vais citer des livres, je citerai Le Grand Mône, qui en est un, évidemment, ne serait-ce que pour la scène du château. Voilà. Et puis Little Big de John Crowley, Le Parlement des Fées, qui est un livre aussi essentiel. Gaiman, beaucoup, dans les classiques. Mais il y en a tellement, j'ai du mal avec les listes, en fait.
Avec des épisodes précis. Quels sont les auteurs qui, en fait, ont influencé ton paysage mental, ton imaginaire, à partir duquel tu as pu créer?
Il y en a plein. Je peux remonter jusqu'à Homère avec l'Iliade et ceux que j'ai cités. Saint John Perse aussi en poésie, qui fait vraiment partie. Voilà, Stuart Merrill, qui est pas connu, qui est pas très peu connu, qui est sous poète romantique, qui a écrit Je suis ce roi des anciens temps, dont la cité dort sous la mer, qui était le poème que ma grand-mère me récitait souvent. Voilà, je crois que j'aime les auteurs en général qui jouent avec le mensonge. Quand j'étais petite, je vivais dans le désert aux Émirats Arabes Unis pendant une année. Et j'avais 8 ans et j'ai lu Verlaine. Parce que ma mère avait raconté évidemment des livres, mais il n'y en avait pas tant que ça, de France. Et j'ai lu Il pleure dans mon cœur quand il pleut sur la ville, comme il pleut sur la ville. Et j'ai senti un truc. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Ma mère, pourtant prof de français, m'a dit « Oui, il a écrit ce poème après avoir tiré sur un ami. » Vous savez, comme dans Voici, un ami. Sharon Stone est un ami. Voilà. Donc, et puis on est rentré en France et j'ai retrouvé la bibliothèque familiale et j'ai lu la biographie de Verlaine et je me souviens d'une double page où il y avait le portrait de Verlaine et le portrait de Rimbaud. J'étais extrêmement choquée, pas du tout, bien sûr, par le lien affectif et sexuel qu'ils avaient, d'autant plus que j'avais un cousin et une cousine qui étaient homosexuels, donc c'était quelque chose qui, voilà, sur laquelle je n'avais jamais questionné, mais sur la différence, en fait. Et surtout sur le fait que Verlaine écrivait sur des jeunes filles blondes. Et là, j'ai commencé, pas consciemment du tout, hein, j'avais 9 ans, mais je crois que j'ai commencé à traquer le mensonge et à adorer ce jeu de mensonge, de fiction permanent. Et donc, je me suis mise à lire en cherchant quelle était la part de vrai, quelle était la part de fiction, à quel moment l'auteur se mentait et mentait aux autres. J'adore les mythomanes, en plus. J'adore ça. J'adore la mythomanie. J'adore qu'on fabulise. Et c'est vraiment à ce moment-là. Et depuis, ça fait tellement partie de ma façon de voir la littérature que j'attends toujours ce lecteur. Il y en a quelquefois qui trouvent des choses, mais qui va me dire, voilà, je suis passée dans le labyrinthe et j'ai vu où vous allez. Alors je cache des choses dans le livre et de temps en temps, il y a un lecteur qui vient me voir. Mais j'attends le lecteur absolu comme on attend le grand amour, celui qui va venir me voir en me disant, ouais, alors là, je sais ce que vous avez fait, je sais à quel moment c'est vraiment vous, à quel moment vous avez fait de l'intertextualité, à quel moment vous avez joué et à quel moment vous avez franchement menti et vous êtes franchement menti. Et donc cette littérature de mensonges qu'on trouve dans Verlaine, quasiment dans toute la littérature, mais de façon plus forte dans le 19e, c'est une littérature que j'aime beaucoup. Et avec, pour moi, ce chef-d'œuvre qui représente plus ça, qui est pour Maud, où il y a ce jeu ambigu tout le temps entre le rêve, la réalité. Voilà.
Mais à ce moment-là, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Ensuite, ton parcours, c'est du clairvoyage à l'horloge du temps perdu, ou de narcogénèse à hanter, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, plusieurs cordes à ton imaginaire, et qu'en même temps, elles se lient, elles se rencontrent.
Le parcours dans mes livres, hein, le parcours que j'ai fait, voilà, c'est aussi un parcours très, très personnel. Le clairvoyage, c'était... En fait, j'écrivais depuis très longtemps, je crois que j'écrivais presque toujours, parce qu'on n'écrit pas, évidemment, quand on est assis devant un ordinateur ou devant un carnet, on le sait. Mais j'avais jamais rien envoyé. J'écrivais des romans, des nouvelles, je les mettais dans un tiroir et je n'envoyais rien. Et le clairvoyage, j'ai eu ma fille aînée au moment du clairvoyage. J'avais écrit ce livre, je l'avais laissé de côté, je l'avais repris. J'avais envie de fixer des gens, j'avais envie de fixer mon enfance aussi, j'avais envie de... Je crois que j'ai eu un grand moment de révolte vis-à-vis de Lewis Carroll sur ce pays que je ne revisiterai jamais, donc j'ai voulu rendre un hommage au mien. Et j'ai eu ma fille, et là je me suis dit, j'ai pas le droit d'avoir ce snobisme-là, de dire, oui, alors j'écris, même si c'est pas vraiment un snobisme, mais j'écris, mais je montre pas, je suis assez perfectionniste, donc il y avait le côté aussi, c'est pas au point. Et pareil, je l'ai senti comme le livre qui était plus au point. Voilà, pas parfait évidemment, mais celui que j'avais envie. Et puis je l'ai envoyé à 4 maisons d'édition, dont La Talente. Et La Talente, c'était plus pour me faire plaisir, parce que j'étais une grande lectrice de La Talente, en me disant ils ne le prendront jamais. Et j'ai reçu 3 lettres de refus. Je me suis occupée de ma vie, j'ai oublié. J'avais envoyé le clairvoyage, en soi, parce que je l'ai prise par la vie, puis surtout parce que je m'étais dit je me mettrais à écrire, c'était un tel bouleversement, je me mettrais à écrire quand j'aurai le temps, quand elle sera à l'école, etc. Et c'est La Talente qui l'a pris. J'arrive à trouver un fil conducteur d'un point de vue professionnel, parce que quand on commence à publier, on est projeté dans un monde où chacun a envie de mener quelque part. Certains vont vous dire construis une œuvre, d'autres vont vous dire c'est un peu la même en ce moment, pense à la carrière, fais le livre qui va te faire vendre 500 000 exemplaires,
et tu seras la même. Mais en même temps, dans ton œuvre, tu as différents fils.
Et j'ai différents fils, et pas tellement, je suis assez imperméable à ça en fait, donc du coup c'était vraiment des moments, des envies, à part les livres chez Rajo qui étaient des commandes, ce qui était un peu différent, parce que là on est dans un processus éditorial qui est très différent, mais L'Horloge du Temps Perdu, c'était un hommage au geek et à la fille de 14 ans que j'étais, qui était plutôt pas du côté des pom-pom girls, qui lisait Boris Vian et Sartre, et qui faisait anglais, allemand, latin, et avec des lunettes et un appareil dentaire, donc socialement c'était... Et à tous ceux qui étaient comme moi et qui sont devenus des adultes absolument absolument formidable, parce que les anciens ratés du collège deviennent des adultes très tournés vers l'émotion et qui finalement sont très indépendants. Ils ne sont pas rentrés là-dedans, même s'ils en ont souffert de facto. Donc L'horloge temps perdu, qui est mon livre peut-être le plus personnel, c'était ça. Marco Jeunesse, j'étais enceinte de ma deuxième fille et j'étais insupportée par le naturalisme et j'étais complètement imprégnée de l'affaire Courgeot, qui était une aberration totale. Mais c'est, l'aberration, c'était pas qu'une femme ait tué un enfant, ça s'est toujours fait.
Voire deux, voire trois. Non,
c'est l'accueil. Tout d'un coup, tout le monde découvrait que la maternité n'était pas...
La négation de la maternité, en fait.
Oui, puis on découvrait que la maternité n'était pas quelque chose de merveilleux, où c'était super d'être enceinte, génial d'accoucher, proche de l'orgasme, et qu'après on savait instinctivement ce qu'il fallait faire parce qu'on était fait pour ça. Et du coup, je me suis intéressée à la question, j'ai vu ce que la loi faisait sur la maternité. C'est assez intéressant sur l'infanticide, à partir du moment où la contraception a vraiment existé, on a renforcé les lois sur l'infanticide, comme si ça avait un lien. Et le
déni de grossesse est devenu une aberration alors qu'il a toujours existé, alors que c'est une continuité dans notre histoire, et tout d'un coup c'est devenu un crime.
Ben, en fait, en soi, c'était même pas la question du crime, c'est surtout que tout le monde était étonné en disant quoi, on peut faire un déni de grossesse et on peut tuer son enfant. Enfin, c'était plus cette surprise tout d'un coup. Et voilà, donc Hanté, c'était encore autre chose, même si c'est un thriller fantastique. Qui raconte l'histoire de deux adolescents qui voient et qui entendent les fantômes et qui sont donc happés par un enfant soldat du Rwanda, le fantôme d'un enfant soldat du Rwanda. À la base, il y a une grande indignation et une réflexion sur ce qui se passe à Paris en ce moment, c'est-à-dire les enfants roumains qu'on voit dans le métro, ça n'est pas... Victor Hugo doit faire la toupie dans sa tombe, je pense. Ça n'avait pas existé depuis plus d'un siècle que des enfants soit dans la rue. Ce qui était choquant en soi, mais ce qui était encore plus choquant, c'était l'indifférence totale. C'est l'indifférence totale des gens qui passent. C'est, voilà, c'est une acceptation que je trouve insupportable. Et c'est parti d'une phrase de ma mère dans le métro où j'étais indignée, qui m'a dit « Imagine ces enfants qui ne voient que des pieds toute leur vie. » Et là, tout d'un coup, au-delà de l'émotion, de l'indignation, du côté, voilà, besoin que j'ai toujours protégé l'enfance, que ce soit en tant que professeur, en tant que mère, en tant que fausse adulte, donc de me protéger moi aussi, il y avait tout d'un coup cette responsabilité civile qui se mettait en place de d'accord, donc c'est le monde que je vais livrer à mes enfants, c'est le monde que je suis en train de livrer, c'est ces adultes qui vont devenir, et on devrait tous être conscients de ça, au-delà du fait que c'est intolérable qu'il y ait des enfants dans la rue, des adultes aussi, mais les enfants, oui, encore plus, et je le dis. Et je refuse l'argument qui dit « Ah, mais c'est pas parce que c'est des enfants. » Si, c'est parce que c'est des enfants. Au-delà de ça, en plus, je vais livrer un monde infect, absolument infect à mes enfants. Je vais les mettre en danger quand ils seront adultes avec ça. Et Hanté, même si c'est un thriller fantastique avec une histoire de fantômes, d'enfants du Rwanda, donc on n'est pas du tout là-dedans, il y a quand même une scène qui parle de ça, c'est parti de là. Donc, je suis quelqu'un d'assez fonctionnel, et finalement, même s'il y a un fil conducteur dans ce que j'écris, il y a toujours cette protection de l'enfance, il y a toujours l'émotion, il y a toujours un décalage que j'entretiens et que j'aime et qui me nourrit. Il y a toujours un moment, quelque chose qui fait tilt, une pulsion, une indignation, ou une envie de défendre, ou une envie de sauvegarder.
Mais justement, tu utilises le thriller fantastique, que ce soit dans l'archogénèse ou dans Hanté, où on est vraiment dans le thriller, essentiellement pour sa dimension politique et sociale. Tu as une de la blanche,
en fait. Bah, je suis une actrice de blanche, à l'origine j'ai horreur des ghettos imaginaires. Par exemple, je lis très peu de science-fiction, mais finalement j'ai très peu de fantasy et de fantastique aussi.
Il y a vraiment une dimension politique et sociale, oui, dans ce que tu écris par rapport à ça, oui, qui est très importante.
Voilà, tout à fait, parce que justement je lis de tout, et je suis une actrice à la base, et parce que... j'ai un vrai souci avec l'engagement tel qu'il est pratiqué maintenant, mais je suis une amoureuse de la colère, en fait, vraiment. Et de la défense de l'individu, de l'être humain, vraiment de l'individu. Et je ne peux pas imaginer écrire un livre sans parler de ce qui m'entoure. Alors bien sûr, je suis plus quand même un auteur de personnages que d'ambiance ou d'histoire. Mais du coup, j'ai besoin d'intégrer cette part sociale pour défendre ce qui me paraît important. Je le fais très peu dans mon discours en tant que finalement, en tant que personne, en tant qu'auteur, parce que j'aime ce qui est concret, je le fais dans mes livres, je le fais dans ma salle de classe. Gueuler dans mon salon, gueuler dans Facebook, oui, bon, ça défoule, mais ça ne sert absolument à rien. J'aime vraiment ce qui est concret, donc je me sers de mes livres pour ça. Donc, pour défendre ce qui me semble, important. Point. En l'occurrence, moi, c'est plutôt l'enfance, c'est la transmission, voilà, plus exactement.
Mais justement, l'enfance et la famille sont au cœur de Thérèse. Que ce soit Thérèse jeunesse ou Thérèse adulte, l'enfance, la famille, tout ce qui l'englobe, les secrets, etc., sont extrêmement importants dans ton travail.
Oui. Et tu veux savoir pourquoi ou...
Ouais.
Y a une part évidemment de la façon dont j'ai été élevée, de ce que je suis. Je suis la quatrième de quatre filles. On a eu notre Laurie aussi, comme dans les quatre filles du Dr March. On l'a eu. Mais bon, je l'ai fait.
Et Joe, c'est toi?
Ouais, ça dépend. De temps en temps, je faisais des tours du côté de Bess, mais pour le côté très introverti et qui veut rester comme ça dans son cocon. Je suis la seule écrivain, mes soeurs sont peintres, en fait, et ma famille est une famille de peintres. Et très vite, je me suis sentie dépositaire de la mémoire. La famille est très importante. Comme j'étais la plus petite, j'ai soeurs beaucoup plus âgées et que j'ai des parents qui ont une très forte personnalité. J'ai un père qui a été un type aberrant, qui a été trompettiste de jazz, qui a été légionnaire, qui a été cadre sup et banquier, qui a fait partie d'un groupe gouvernemental que je ne nommerai pas, qui fait que j'ai eu la joie de tirer la Kalachnikov à 8 ans dans le jardin de notre maison bourgeoise à Fontainebleau, qui était un globe-trotteur, qui était une mère qui est très engagée, qui est vraiment l'intellectuel de gauche, mitterrandiste, par excellence. J'avais une famille qui était... moi, j'étais très introvertie, j'avais une famille qui était assez écrasante, sans le vouloir, et qui a fait ce que je suis. Et du coup, je me suis très vite sentie dépositaire de la mémoire. Ça, c'est vraiment pour le côté très personnel. Maintenant...
C'est aussi ce qui donne l'importance de l'enfance dans tes textes, en fait.
Bien sûr, oui, ça, c'est aussi parce que j'ai jamais décollé. Hein. On va être très, très clair. Ma fille de 8 ans me dit souvent « t'es une adolescente », mais je pense qu'elle se trompe. Je me suis arrêtée vraiment juste avant. Je ne suis pas encore assez mature pour être une adolescente, mais je m'oblige à être responsable, mais je ne suis pas tellement différente finalement de ce que j'étais à 8 ans, c'est-à-dire que j'aime toujours lire en attendant l'heure du goûter, surtout qu'on ne prend pas la tête avec des histoires de ranger sa chambre et ce que je fais dans la douleur, mais voilà. Au quotidien, c'est ça. Après, je pense que la famille est au cœur de la problématique de tout ce qu'on vit, c'est au cœur de la problématique à l'école. Finalement, et les bouleversements sociaux liés à la famille viennent dans l'école. Et aujourd'hui, si on a un système éducatif que je trouve complètement incohérent, c'est lié à la famille. Alors attention, pas parce que les familles sont dysfonctionnelles, c'est parce que l'école n'est plus adaptée. Elle est au cœur de l'émotion aussi. Elle est au cœur du parcours qu'on a. Et c'est ce que je connais le mieux et c'est ce que j'ai envie de connaître le mieux. Je suis pas une grande aventurière. Je suis ce que Colette appelait une voyageuse immobile. C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je lis. Donc finalement, ce cocon, c'est tout ce que je connais, c'est tout ce que j'ai envie de montrer, en fait, en soi. Et ça me permet après de réfléchir, évidemment, à des sujets sociaux. Mais je pense que la famille est un excellent laboratoire social.
Mais au-delà des concepts, des choses que dont tu écris, il y a dans ton œuvre une importance primordiale de la langue.
C'est la première musique, c'est... On peut pas dissocier... C'est la première chose qui est importante, en fait, avec... bien plus, alors surtout pour ma génération, bien plus que toucher dans la vie d'un enfant. Maintenant, évidemment, on masse les enfants, on les cododote, on les met dans des écharpes, ils sont toujours en contact. Le langage dans ma famille, c'est quelque chose de très important. On passe tout le temps par le langage, en fait. On n'est pas très tactile. Moi, j'ai un vrai problème, d'ailleurs, avec cette mode des hugs que tout le monde adore. J'ai horreur de ça. Mais on passe vraiment par le langage. On on s'engueule, on s'aime, ça va parfois très loin, c'est la comédie à l'arté, mais le langage est très important. Moi, je pense qu'il y a une oreille linguistique, vraiment. Je sais que la mode est évidemment à dire que le talent n'existe pas et que tout le monde peut être écrivain, peintre, mécano, cuisinier. C'est pas vrai, il y a un processus intellectuel, alors on va pas l'appeler talent parce que c'est, paraît-il, un gros mot. Il y a un processus intellectuel qui fait que on est peintre, on est mécanicien, on est cuisinier, on est écrivain. Et cette oreille, on l'a. Certains l'ont, les lecteurs l'ont. Alors on ne transforme pas obligatoirement en écriture, mais on l'a vraiment. C'est une musique très très particulière qui fait que d'ailleurs quand on écoute certains textes, on entend ce qu'il y a derrière, on entend ce qui est sucré, on entend le temps de cible. Vous savez, quand Colette, c'est merveilleux, moi ça, j'ai eu des professeurs de français qui me disaient Colette adorait sa mère. Je ne sais pas si vous vous souvenez du recueil Sido. Et moi je disais, mais c'est pas vrai. Alors j'arrivais pas à le formuler, il fallait que je sois étudiante en lettres pour réussir à le formuler. Non, mais il y a quelque chose derrière, il y a un bruit de scie, vraiment. Et c'était vrai. Et cette petite musique là est très importante. Dans la vie d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans la vie d'un adolescent, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans la vie d'un adulte aussi. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne parlent pas. Bon, après, évidemment, il y a tout le côté encyclopédique, universitaire, où j'ai étudié la langue. Mais à la base, il y a cette oreille musicale là. Moi, c'est à tel point, d'ailleurs, que j'écoute très peu de musique, parce que, ou alors que des chansons à texte, que la plupart des gens considèrent comme n'étant pas de la musique. Parce que j'ai besoin de cette langue-là, j'ai besoin de, voilà. Chez moi, on lisait beaucoup, ma mère continuait à nous lire et à nous raconter des histoires, elle jouait pas avec nous. D'abord, dans les années 70, on n'était pas dans cette mode où les parents étaient à quatre pattes en train de jouer au mobile. En revanche, je la suivais dans la maison et elle me racontait des histoires. Et elle a continué à nous lire des livres jusqu'à l'âge de, je vais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Donc en plus, j'ai été formée à ça. Et aujourd'hui, ce que je trouve dommage, alors il y a des modes dans la maternité comme ça, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance au visuel, beaucoup d'importance au toucher, mais plus à l'oreille. Et c'est très bien, on achète beaucoup d'albums. Les albums, je crois que dans l'édition, c'est ce qui marche le mieux, c'est très très bien de lire des histoires à ses enfants, mais c'est bien que parfois il n'y ait pas de support et que l'enfant soit sollicité juste par l'oreille. Et écoute ça, d'ailleurs, c'est Pénac qui, dans Comme un roman, alors Pénac, ça a été une révélation en tant que prof, dans Comme un roman, qui dit que la grande erreur qu'on fait, c'est de lire des histoires aux enfants et puis un jour de décider qu'ils étaient trop grands et donc de les laisser face à leur impuissance, à leur ignorance, etc. Et qu'il fallait continuer à lire. Alors en classe, moi je le fais beaucoup, enfin je le faisais parce que je suis professeure depuis longtemps, parce que je suis partie vivre en Irlande et donc j'ai laissé de côté mon métier de professeur et je le regrette, mais. Je disais beaucoup et parfois je racontais simplement et c'était un vrai déclic. C'est
un cadeau.
Ouais, mais tout est un cadeau de toute façon en littérature. Oui, bien sûr, mais cette oreille-là, il faut l'entretenir. Certains l'ont dès le départ, mais ça se forme comme tout. Voilà.
Justement, et là, ta dernière œuvre, American Food, tu l'as écrit en collaboration. Alors, on parle de jouissance, de douleur d'écrire. Est-ce que c'est un révélateur d'écrire avec quelqu'un d'autre ou est-ce que ça ne change absolument pas ta manière, ta relation avec l'écriture ?
Non, c'est technique en fait. J'aime beaucoup ton analogie, mais du coup, c'est très technique. Parce que ça change bien la façon d'écrire, ça change évidemment la façon de concevoir l'œuvre elle-même, parce qu'on n'est pas maître à 100% dans ce qu'on écrit, donc on doit répartir. Mais ça reste de la technique.
Voilà. Mais c'était un plaisir ou pas ?
C'était un plaisir parce que l'univers me plaisait, parce que je l'ai écrit avec mon meilleur ami. Une maison d'édition que j'aime beaucoup avec des gens, Simon et là, que j'apprécie vraiment. Donc oui, c'est un plaisir. Mais de toute façon, c'est souvent un plaisir d'écrire. Enfin, il y a peut-être un livre, je ne dirais pas lequel, qui a été vraiment pénible à écrire. Mais American Tea, ça a été que du plaisir parce qu'en plus, c'est léger. On est à Chicago, 1925. Les faits ont envahi Chicago. Et Capone trouve que ça nuit au commerce de la prostitution et d'alcool. Donc il envoie quatre losers pour s'occuper des affaires des faits. Et là, il y a une intrigue. voilà, qui, autour de ça. Donc c'est drôle, j'ai pu mettre toutes les références. Bon, comme j'ai dit, mon père était un grand fan de jazz et de New Orleans en même temps, donc j'ai pu m'amuser sur les références sur le jazz. Et puis on s'est vraiment amusé, voilà.
Alors maintenant je pars passer chez vous avec une petite enveloppe avec des petits mots. Pour que vous posiez des questions à Anne.
Place importante des femmes quand j'ai besoin vraiment de sentir le personnage dans l'émotion elle-même. Mais bizarrement, dans les réactions et dans l'idéologie, les deux personnages qui me ressemblent le plus dans tout ce que j'ai écrit, c'est ceux de Gaucher dans Marco Jeunesse, et c'est le beau-père mort dans Hanté, c'est Tutual, donc un personnage qui n'est pas dans Hanté, qui revient par flashback parce que son beau-fils se souvient de lui. Et c'est celui qui me ressemble plus dans ce qu'il défend d'un point de vue affectif. Et soit c'est celui qui me ressemble plus dans les renoncements au monde que j'ai souvent, et dans les blessures qu'il a. Donc le rapport que j'ai avec le personnage féminin a cette ambiguïté-là, c'est-à-dire que quand j'ai besoin d'un personnage fort qui va porter l'histoire, c'est une femme. Quand j'ai envie d'un personnage qui me ressemble, c'est un homme.
Est-ce que de ta part, c'est un refus de cette situation ou au contraire une ouverture vers l'autre?
Pas obligatoirement un refus de sexuation, c'est une ouverture, enfin c'est même carrément pas un refus de sexuation, c'est vraiment une ouverture sur, c'est ma perception tout simplement des genres, c'est ma perception des gens, de l'individu, voilà, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un en me disant c'est un homme, de toute façon moi j'étais un garçon manqué, donc dès le départ moi j'ai pas été dans le rose, les Barbie, etc. Et puis comme je vous l'ai dit, l'homosexualité c'est quelque chose d'acquis, d'accepter. On ne remettait même pas en cause, on n'a pas eu besoin de nous l'expliquer. Donc du coup, il n'y avait pas ce côté très, très genré dans mon entourage. Et j'ai gardé ça et je défends ça. C'est-à-dire de voir des individus qui question de la sexualité et autres, mais de voir des individus qui me plaisent, qui ne me plaisent pas, que je trouve intéressant, que je ne trouve pas intéressant, que je sens, que je ne sens pas, avec qui il y a une chimie, avec qui il n'y a pas de chimie. Donc voilà, c'est juste ma perception de l'humain.
Son voyage dans le temps. Voyageant. Si tu en avais la possibilité, Anne, vers quelle époque tu voyagerais?
Tu veux dire si je sortais de mon égocentrisme qui me pousserait obligatoirement à revenir à une époque de ma vie? Ben c'est dur parce que l'exploratrice immobile que je peux être aurait tendance à vouloir voir le futur. Mais en même temps, j'aurais un peu peur parce que le film qui m'a le plus... Il y a deux films qui m'ont impressionné quand j'étais petite, c'est la planète des singes, le dieu évidemment, et puis la machine à remonter le temps. Donc ce sont deux visions quand même post-apocalyptiques du futur. Et d'ailleurs, tous les mercredis en France, bon, c'est plus le cas, tout le monde, vous savez, les premiers mercredis du mois, il y a la sirène. Ça fait plus de 30 ans, quand je vois qu'il y a la sirène, je repense à la machine à remonter dans le temps. Et je me fais avoir tous les premiers mercredis du mois, j'entends cette sirène et j'ai une crise d'angoisse parce que c'est la sirène de ça. Mais en revanche, la médiéviste en moi aurait plutôt tendance à avoir envie de voir le Moyen-Âge, d'aller... Alors je vous avoue, j'avais un fantasme de voyager dans le temps, c'est d'aller à la cour de Blois, voir ce moment merveilleux où on est à la cour de Charles d'Orléans, donc c'est le début du livre objet. Et Charles d'Orléans, que je hais, qui a été le cauchemar de mes années d'études, parce qu'alors lui, on l'entend, la petite musique insupportable derrière. Charles d'Orléans réunit des poètes pour écrire « Je meurs de soif auprès de la fontaine », donc chacun part de ce vers pour écrire un poème. Et il y a des poèmes très bien faits, il y a des poèmes cabotins, il y a des poèmes pour Charles d'Orléans. Arrive François Villon qui écrit « Je meurs de soif auprès de la fontaine » et qui écrit en fait une demande de fric. Il meurt de soif auprès de la fontaine, il n'a plus un sou et Charles d'Orléans est blindé de pognon. Et juste après il est mis en prison, Villon part sur les routes et là on perd sa trace. Je rêverais, c'est un vrai fantasme de la d'étudiante, de voir ce moment où Villon arrive, le mauvais garçon par excellence, et vient demander de l'argent à Charles d'Orléans au milieu de toute cette cour qui fait des courbettes. Voilà, je crois que c'est vraiment ça.
peu, il faut m'aider. Après, on...
Là, la question, c'est quelle a été ton entrée dans l'imaginaire? Comment es-tu arrivé dans ce milieu-ci?
Concrètement, par ActuSF, en fait, j'ai rencontré Jérôme Vincent. Et c'était une époque où je lisais plus de Blanche parce qu'on était en pleine mode de l'autofiction. Je venais de finir mes études de lettres en médiéval. Et je venais de découvrir l'imaginaire à proprement parler, c'est-à-dire la fantaisie qui était parfaite pour moi parce que je ne supportais pas l'autofiction. J'avais beaucoup de mal à trouver les émotions que je cherchais. Et j'ai rencontré Jérôme Vincent et puis il m'a proposé de faire des critiques pour ActuSF. J'ai été chroniqueuse, c'était épouvantable, mais je crois que j'ai même fait renoncer un auteur à l'écriture, un auteur de premier roman, tellement j'étais infecte. J'ai fait l'erreur deux, trois fois et après j'ai arrêté en me disant mais c'est tellement pas moi, je suis emportée dans quelque chose qui ne me ressemble pas. Mais voilà, et à côté de ça, j'ai commencé à faire des chroniques un peu plus poussées. Et Jérôme m'a proposé de participer à l'aventure ActuSF. Donc j'ai mis un peu d'argent dans ActuSF. Et puis voilà, j'ai fait quelques salons, mais je connaissais qu'ActuSF en fait. Je ne connaissais pas les éditeurs, c'est pas mon truc. Je ne suis pas très diplomate en fait. Donc j'évite d'aller là où je peux me mettre en danger au niveau social. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis après, j'ai envoyé ce manuscrit à la Talente et c'était. Alors là, pour le coup, vraiment le seul éditeur que je ne connaissais pas du tout, on ne s'était jamais croisé. D'ailleurs, je suis encore désolée maintenant de ce que j'ai fait pour que mon manuscrit soit lu plus tôt. J'ai joué sur le fait qu'en salon, on ne connaît jamais les gens, donc j'ai envoyé mon manuscrit à Stéphane Monfeyodon en disant « Vous vous souvenez, nous nous sommes croisés à tel salon, on ne s'était jamais croisés. » Évidemment, il a dit « Ah oui, bien sûr !» Et du coup, il a lu mon manuscrit en premier, c'est quelque chose qui m'a arrangé un peu. Donc voilà.
Tu la transformes.
Ah oui, je la transforme, mais c'est toujours ce jeu de cache-cache et de masque qu'on met avec le lecteur. Et on accepte de se dévoiler, on veut pas que ça se sache. Du coup, on se dévoile carrément. Alors dans ce cas-là, on se cache quand même derrière. Quand même, les auteurs se cachent derrière l'idéologie parce que c'est toujours, on a toujours moins honte de ses idées que de ses émotions, ce qui est un peu aberrant quand on y pense. Mais voilà. Et puis la pudeur classique telle qu'on entend. Bon, j'écris pour la jeunesse, donc je suis pas tellement confrontée à la question de la sexualité, très peu. Et puis ça me fatigue de parler de sexualité aux ados, je trouve qu'ils se débrouillent très bien tout seuls et ils n'ont certainement pas besoin de notre vision de là pour le coup de vieux.
Mais la pudeur n'est pas forcément axée sur la sexualité.
Oui, moi je base là-dessus, la pudeur, j'implique aussi la pudeur du corps, donc la pudeur liée à la sexualité. Donc, je joue avec ma pudeur, oui, comme tout le monde, sur ce qui me ressemble, mais je sais quand.
Racine. Tes racines. L'importance de tes racines dans ton œuvre.
Et du coup, j'ai déjà répondu tout à l'heure, c'est voilà, très cocon, voilà. Et puis tout ce que j'ai écrit, c'est vraiment parce qu'on m'a commencé à me raconter des histoires. Il y a juste une anecdote rigolote sur le silence, le secret et la façon dont on influence une famille. J'avais une grand-mère donc, qui était aquarelliste et qui avait une personnalité délirante, mais qui était aussi une voyageuse immobile comme moi, c'était pas la femme de pouvoir. Vous la retrouvez dans Narcogenèse, c'est Mamia, Amélia Gaucher, c'est elle. Et cette grand-mère avait elle-même une belle-mère qu'elle détestait, donc on peut être peintre et pas d'une mesquinerie. Et ma grand-mère, de toute façon, avait décidé que l'art, c'était la peinture, l'écriture finalement. Bon. Et je devais avoir 28 ans et un jour ma mère, qui n'a jamais rien dit contre sa mère, me dit comme ça, j'écrivais déjà depuis très longtemps, je n'étais pas encore publiée, et ma mère me dit, oui quand même, mamie, quand je pense qu'elle a détruit, elle a brûlé les écrits de ma grand-mère. Voilà, là on est en plus dans le tabou total, l'auto-da-fé, donc de sa belle-mère. Vous pouvez tourner, je dis, mais la mère, donc mon grand-père écrivait. Et ma mère me dit, oui, mais elle n'avait jamais pensé à me dire, j'écris, je lis depuis l'âge de 6-7 ans. Je suis très vite passée à l'écriture et elle ne me l'avait jamais dit, donc elle-même, avec les yeux un peu écarquillés, en réalisant la chose, me dit, ah oui, mais d'ailleurs, cette grand-mère publiait dans le journal des histoires, des histoires de quoi? Et là, elle me dit, bah, de chevalier et de fée. Ah ouais, d'accord. Personne ne m'en avait parlé. Moi, j'avais toujours l'impression d'être le vilain petit canard. Je n'avais pas dessiné.
Les racines ne sont pas seulement françaises non plus.
Alors, oui. Alors là, c'est le côté mythomane de la famille. Oui. De l'autre côté, je suis libanaise, mais les Libanais globent auteurs. Alors, l'histoire se raconte toujours. Alors, on est aussi un peu syrien, il y a un peu d'hommes, puis alors le nom a été acheté, et puis on est libanais, mais mon père il est en Afrique, et il a été envoyé en France à 10 ans, donc il a découvert le Liban en 40 ans. Et de l'autre côté, c'est vraiment les voyageurs absolus. J'ai gardé d'eux une ouverture d'esprit, je l'espère, et un goût du non-sens, et un goût pour les histoires, mais alors les histoires complètement délirantes qu'on réinvente tout le temps, et voilà. La terreur. Ça, je sais que t'aimes beaucoup. Bon, alors, l'histoire du patriarcat. Déjà, on va partir sur le patriarcat. Ça me fait un peu rire parce qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, on est dans une société patriarcale, c'est vrai. Maintenant, c'est devenu un mot un peu à la mode et c'est le grand méchant loup. Donc, dès qu'il y a quelque chose, c'est la faute du patriarcat. Vous savez, c'est un peu comme le lecteur. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas ce qu'il attend, on ne sait pas. Mais tout vient à la faute du patriarcat. Très bien. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça et qu'on s'éloigne des bases. Moi, ce n'est pas ma vision du féminisme de grandir.
Surtout que tu as grandi dans un matriarcat.
Alors, moi, j'ai grandi dans un vrai matriarcat. C'est-à-dire qu'on met les hommes sur un piédestal, mais on leur coupe les parties génitales avant. Comme ça, on est sûr qu'ils ne vont pas bouger. Résultat, dans ma famille, les hommes partent ou meurent. Et là, on est dans l'arco-genèse, complètement. Mon mari s'est déjà retrouvé à Noël avec 8 filles autour de lui en regardant désespérément mon neveu de 10 ans en se disant « Mon Dieu, on est deux mâles, tout va bien. » On est un vrai matriarcat. Ce qui fait que le rapport à la famille est très simple, on n'en sort pas beaucoup, c'est très rassurant, on sait où sont les choses, on parle beaucoup, on sait où on doit se placer, on sait que tout se passe de toute façon dans la cuisine, de base. Vraiment. Et au salon. On sait aussi qu'une femme doit être indépendante. Donc ça, moi, j'ai été élevée dans l'idée qu'une femme doit travailler. Et qu'elle doit travailler pour apporter ce qu'elle est au monde. En revanche, notre rapport à la société patriarcale est complètement délirant, et aux hommes aussi. Et les sociétés matriarcales sont... matriarcales, parce que les sociétés matriarcales ressemblent aux sociétés patriarcales. C'est-à-dire que les hommes se taisent et travaillent. Vous savez, il y a des sociétés comme ça en Asie, des villages entiers où les femmes dirigent, sont polygames et les hommes vont polyandres, et vont travailler et se taisent. Une famille matriarcale, et j'en connais quelques-unes en France, c'est une famille où les hommes ne se taisent pas obligatoirement, ont envie de se taire au bout d'un moment quand même. et où tout est très cohérent. En fait, c'est un modèle familial qui marche très bien, le matriarcat. Au niveau social, j'ai des doutes. De toute façon, j'ai des doutes sur tout modèle qui implique qu'on écrase les autres. C'est pour ça que cette histoire de patriarcat me fait sourire, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, et que ça tombe vite dans un discours qui explique que c'est la faute des hommes si on en est là. Excusez-moi de vous dire qu'on arrive très bien à se tirer des balles dans le pied toute seule.
Je vais te donner quelques phrases. Nishiemann.
Un loser. Évidemment. Je suis vraiment une grande fan de Neil Gaiman dans tout ce qu'il fait. C'est même pénible parce que parfois je récupère des choses et je commence à écrire quelque chose. Et je trouve ça absolument génial, ce qui est logique parce qu'au bout de deux pages, je m'aperçois que c'est Neil Gaiman. Donc ça c'est toujours le moment où on n'est plus dans la conscience de l'écriture. Heureusement, on s'en rend compte. Enfin, certains d'entre nous s'en rendent compte au dernier moment. Donc on arrive à rectifier. J'aime tout. J'aime l'idée que... En fait, je suis tombée amoureuse de Gaiman avec Neverwhere, et rien que l'idée que on disparaît, quand on rentrait dans Londres d'en bas, on n'avait plus d'identité dans Londres d'en haut avec cette histoire de porte, j'étais déjà dans mon univers. Voilà, la perte de l'identité, une identité fictive, un monde fictif qui devenait un monde d'aventure, j'étais déjà dans tout ce que j'aimais, le fantasme de la porte derrière le meuble, le fantasme, ce que j'appelle le fantasme de Narnia. On ouvre l'armoire et hop, on est ailleurs. Sauf que là, c'était Neil Gaiman, il y avait un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus rock'n'roll, adultes, et tout son imaginaire me parle.
Xavier Deneau.
Un auteur que j'adore. Je me regrette qu'il soit là parce qu'on m'a donné que des conférences sur la science-fiction et que j'étais lamentable alors que lui aurait été absolument génial. Un élément essentiel du paysage de la science-fiction. Et un auteur que je vous invite tous à lire si vous ne le faites pas déjà, et mon meilleur ami.
Et pour finir, j'aimerais que tu me parles de ton féminisme. Très importante dans ton malgré tout.
Alors, mon féminisme, je ne vais pas partir dans des débats parce que ça me fatigue, d'autant plus que c'est devenu une mode et que je ne suis d'accord avec personne, sauf Elisabeth Badinter, donc on va résumer ça comme ça, et que je ne sépare très bien le féminisme de médias, le féminisme identitaire et le féminisme idéologique, mais celui d'Elisabeth Badinter et de quelques autres.
C'est pour ça que je te demande de me parler du tien.
Le mien rejoint l'idée que chaque individu est libre de ses choix. Qu'être féministe, ce n'est pas juger les femmes, c'est surtout pas ne pas chercher à faire leur bonheur à leur place. C'est fatigue dans le féminisme identitaire et médiatique aujourd'hui. Qu'une femme fait ses propres choix en fonction de son éducation, de la société dans laquelle elle vit, et qu'être féministe, c'est favoriser le choix des femmes dans le respect, évidemment, des différences de chacun. Et non pas pour aplanir les différences, mais dans des différences de chacun. Donc ça demande une connaissance de l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son genre, et une connaissance de la société dans laquelle on vit.
Justement, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux transmettre? Que transmettre aux futures générations?
Sur le féminisme?
Sur le féminisme, sur la littérature, sur la culture, sur tout. Que transmettre?
Je pense que personne ne va me contredire ici, même si ça paraît très simpliste, mais le rêve sauve tous. Et tous, le reste sauf tout le monde. Je ne vais pas vous donner c'est le seul, j'ai plein de messages, mais le premier c'est qu'il faut avoir des envies, il faut avoir des motivations, et du coup il faut avoir des rêves. Et il ne faut pas avoir des rêves, on n'est pas dans un téléfilm de l'assise, donc évidemment pas avoir des rêves parce que tout est possible, on va tous y arriver, c'est super. Il faut prendre le temps de rêver, il faut prendre le temps de se connaître, de regarder autour de soi, de regarder les autres aussi. C'est absolument essentiel, c'est quelque chose qu'on perd. On perd en vieillissant parce qu'on n'a plus le temps, et le rapport au temps est essentiel aussi. Prendre ce temps d'être un mercredi après-midi et de s'ennuyer un peu. C'est ce qui fait qu'on est des lecteurs, et après là, tous les messages passent. Après, on trouve les messages qu'on a envie de trouver.
Alors je vais donc, on arrive à la fin, ça prend du temps. Donc je vais remercier Alpha Cori pour toutes ses réponses. Et vous remercier tous d'avoir été là, de nous avoir écoutés et d'avoir participé aux questions que vous avez en vous. Merci beaucoup.